Et ben. On remonte jusqu'où, ouais, c'est ça la question. On avait un projet de vie collective,
ouais, voilà,
rurale, ouais. Comme. Enfin voilà, c'est quasiment cliché, ouais. À la base.
Et puis en fait.
Ça s'est étoffé petit à petit. Et puis...
puis en fait, j'ai un ami notamment qui était sur la ZAD, qui a dit bah, votre projet c'est cool, mais pourquoi vous le faites pas ici? Et là, ça nous a fait tilt par rapport après. Bah...
Elle habitait ici, non?
Ouais.
Elle habitait, ouais, ouais. On s'en est depuis un an. Mais c'est surtout que la manière dont l'invite avait été faite, c'était déjà intéressant à ce moment-là, parce que c'était bah, aujourd'hui, dans le contexte de la ZAD, il y a des discussions qui m'amènent à vous proposer de venir parce qu'il semblerait qu'un projet comme le vôtre, il puisse aujourd'hui trouver sa place ici, ce qui n'était pas le cas il y a. Enfin, depuis. Enfin, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, quoi. Et du coup. L'invite, elle s'est faite comme ça. Et
peut-être juste pour préciser sur la question d'avant, je reviens un peu. On est aussi des. Entre la bande de copains et les gens qui bossent ensemble, on était dans des réseaux associatifs, dans différentes assos qui commençaient à vraiment s'organiser en réseau de manière intéressante. Et on se connaissait de camaraderie, mais on se connaissait aussi de construire des choses déjà un peu. On voyait que ça marchait bien. Il y a ça aussi à la base. Les gaz, qui sont des épiceries autogérées, à Nantes, à l'heure actuelle, il y en a deux et un en construction. Et des gens de la création et du développement des deux gaz font partie de ça. Donc il y a un des gaz qui est sur un quartier où il se passe pas mal de choses. C'est-à-dire que dans ce quartier-là, il y a cette épicerie autogérée, il y a une association de développement durable. En face, il y a un lieu qui est un café associatif, avec dedans une association de cuisine, de cantine mobile à base de récup qui est fait chez des agriculteurs avec des partenariats. Et puis il y a aussi un collectif d'architectes, enfin voilà. Et du coup tout ça s'organise un petit peu ensemble en réseau. Et l'idée en venant ici, c'est aussi de prolonger un peu ce réseau-là, voilà. Pas de s'en extraire.
La question c'est est-ce que c'est le milieu associatif nantais qui arrive sur la ZAD ou est-ce que c'est la ZAD qui rentre dans le milieu associatif nantais?
Bah les deux, non?
Ouais, puis je ne sais même pas si ce serait vraiment le milieu associatif nantais, je pense. Ouais, c'est des groupes de milieux associatifs. C'est... Je pense qu'il y a une espèce de rencontre. Mais c'est plus des individus quoi, plein de personnes qui ont envie de faire bouger les choses en fait. Et qui ont utilisé pas mal l'outil associatif à Nantes. Et donc ont du coup forcément un réseau de copains, de gens avec qui ils ont fait des choses, et du coup bah ils viennent sur la ZAD avec ça, et puis c'est vice versa, et à la ZAD bah du coup il y a cette passerelle qui se fait.
C'est devenu de plus en plus une évidence qu'on avait ces outils là et ce réseau là, et que ça serait sûrement intéressant d'arriver à les tirer un peu jusqu'ici, et déjà d'une part à sortir un peu de la métropole, enfin de l'agglomération en tout cas, et d'amener toutes ces énergies qui commençaient un peu à bouillir, notamment sur ce quartier-là, sur le Bas-Chantenay, et de rebondir là-dessus en se disant bah, la ZAD, finalement, c'est déjà... je sais pas comment dire, j'allais dire aboutissement, mais non. Mais c'est déjà... sur les questions qu'on se posait et la manière d'organiser les usages d'un morceau de territoire, bah, la ZAD forcément c'était vachement plus avancé sur les mêmes questions. Et donc ça s'est fait assez logiquement en fait.
Enfin, pour avoir pareil, comme je disais, avoir été pas mal sur la ZAD en 2012, pas autant que maintenant en fait, régulièrement, mais je me doutais pas de cette vie folle en fait, de tout ce qui pouvait se passer. Enfin, j'ai pris vraiment une claque depuis qu'on est arrivé. Enfin, et du coup, je repars sur Nantes, là, à chaque fois qu'on va sur Nantes, je raconte ces récits de ce qu'on a vécu, ce qu'on fait, c'est la force de mouvement, la vitesse où ils s'organisent, où les gens se mettent en place, en l'espace d'une seconde, tout ce qu'on peut faire. Et donc, du coup, ben, ça, c'est ce qu'on ramène à Nantes pour dire putain, mais ça s'organise, mais à une vitesse folle, que, inimaginable, quoi. Fin. Et donc ouais, enfin ça répond, voilà, tu vois, ces deux rencontres où il y a Nantes et on vient, on part là-bas avec le petit réseau qu'on a.
Après, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe dans le fait que la ZAD, qui est donc étymologiquement une zone à défendre, là ce que vous faites, là vous défendez pas une zone, là c'est un truc très offensif de venir prendre un bout qui était pas là, enfin qui était pas pris avant, et en gros s'implanter et symboliquement du fait de votre proximité avec, enfin en gros venir s'implanter un peu dans le centre, bizarrement dans une sorte de tête de pont dans le centre-ville, et en même temps de prendre un lieu qui est qui était, enfin là vous défendez pas, vous avancez quoi, enfin, c'est la salle qui avance quoi.
On s'expose. C'est ça l'expérience. Ouais. Merde, merde. Ben, c'est vrai que c'est une partie d'Azad qui s'appelait encore zone d'aménagement différée parce qu'elle n'était pas occupée, et puis maintenant,
voire même pour certains mais... élus, c'est la deuxième ZAD.
Ah ouais, ouais.
Mais après, pour le maire de Notre-Dame-des-Landes.
Mais en fait, je pense qu'il y avait des discussions justement stratégiques qui avaient un intérêt pour quand on imaginait de venir sur le secteur, enfin dans l'Est, c'était, ça avait pas mal animé aussi le mouvement qui nous a aidé à mettre en place tout ce projet, faire toute cette installation.
Mais puis aussi, il y avait la volonté qu'on ne soit pas dans le centre. Enfin, je pense qu'on était plusieurs à ne pas vouloir être dans le centre de la ZAD, dans l'intra-ZAD, enfin voilà, et de penser ZAD et de vivre ZAD tout le temps. Enfin, et en tout cas, enfin, depuis le début, on avait, dans notre projet, c'était super important d'avoir des contacts avec les voisins. Et du coup, là, il y a un tout petit bourg à côté, enfin un petit lieu-dit qui s'appelle Chanet. Et du coup, on rencontre pas mal de voisins et on a beaucoup de contacts avec eux. Et ça nous était super important. Et ça, ce qui n'empêche pas d'avoir plein de contacts avec la ZAD aussi. Enfin, on en fait partie aussi. Et voilà. Mais ça semblait important d'avoir plus de relations aussi avec l'extérieur, de faire du lien aussi, enfin...
Après, il y a aussi, on défend aussi une façon de vivre aussi, enfin une manière de vivre qu'on ne reconnaît plus. Enfin, je sais pas, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que, la société qu'on peut retrouver en ville ou le monde marchand propose ne convient plus en fait. Et je pense qu'il y a une idée de déserter ça, ces lieux, et puis venir ici, puis défendre aussi un autre mode de vie et à la fois encore plus y rajouter aussi ce projet. Donc du coup, pareil, encore une fois, on se rajoute à qu'est-ce qu'on défend, enfin...
J'ai le sentiment qu'on ne sait pas exactement... Enfin, en gros, depuis le départ, cette question-là, finalement, elle est en mouvement permanent. Et plus on s'est approché de l'arrivée sur ce lieu, plus elle a bougé de jour en jour, quasiment. Enfin, c'est mon sentiment. Et que rien que ça, en fait, c'est déjà une chose qu'on... Ah, du coup, j'arrive pas à dire nous parce qu'on n'en a jamais parlé. Mais... c'est... Enfin, j'aurais envie de dire que je défends rien que le fait de cette avancée complètement empirique, expérimentale et qui se remet en question tout le temps, et cette espèce de mouvement presque quotidien qui se questionne tout le temps. C'est quelque chose qui est pas impossible à faire dans nos vies à Nantes ou. Mais qui est beaucoup plus laborieux, qui se confronte tout le temps à la question de la légalité en permanence, de la règle, de la norme. Et là, il y a une espèce de contexte. Alors, sur la ZAD, mais rien que le fait d'envisager les choses sur la ZAD, finalement, même en nous-mêmes, on pense plus pareil, quoi. D'un coup, il y a tout un pan de notre réalité quotidienne habituelle où on pense les choses toujours en fonction de la légalité, et là, qui se décale, quoi. C'est pas que ça disparaît, mais qui se décale complètement, et on se met en... Enfin, moi, j'envisage pas du tout le monde de la même manière quand je me projette sur la ZAD ou quand je me projette à Nantes. Et même si, je pense que c'est complémentaire, mais il y a une forme de... comme un degré de liberté en plus que moi, j'ai bien envie de défendre bec et ongle.
Et puis, il y a un truc aussi qui est intéressant. Enfin, moi, je trouve que depuis qu'on a commencé le projet, depuis qu'on s'est installé ici, Il y a tout un travail sur lequel les gens de la ZAD commencent à travailler depuis quelque temps. C'est sur l'image positive de ce qui se passe ici. Essayer de contrecarrer tout ce qui se dit, enfin tout ce qui sort de la ZAD dans les méchants médias et dans les mauvaises consciences. C'est à chaque fois tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe de mal, quoi. Et alors qu'il y a juste à venir ici pour voir que les choses belles et les choses qui marchent, eh ben, il y en a 100 fois plus. Mais ça, ben, forcément, ça a plus de mal à sortir de la zone. Et depuis qu'on s'est installé, moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on a un petit peu réussi, mais totalement malgré nous, parce que enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est qu'on a des visites tous les jours de gens qui viennent voir. Ah, on a entendu parler de votre projet à la radio et tout ça, on vient voir comment ça se passe. Et il y a des gens qui, du coup, qui viennent, qui n'étaient jamais venus à la ZAD et qui viennent ici et bah voilà, bah, je m'embourbe un peu dans ce que je voulais dire, mais enfin, je pense que...
Ce qui est à la ZAD et pas à Londres.
Ouais, c'est une zone humide dans ma tête.
Et puis peut-être un peu plus basiquement, il y a l'importance de l'alimentation. Et
c'était ma question d'après, c'était qu'est-ce que vous voulez conserver. Vous faites une conserverie, n'importe quel psychanalyste vous dirait que c'est pas un hasard, c'est qu'on veut conserver quelque chose.
Notre défend est conservé.
C'est ça.
Quand on est arrivé, tout s'est mis en place. Il y a plein de gens qui viennent. Enfin, ça vient de tous les milieux, de tout âge, de tout horizon, qui viennent avec le savoir, leur envie de faire quelque chose. Enfin, il y a plus de questions de règles, comment va ça fonctionner. En fait, la seule question qui a eu un partage commun, c'était de défendre quelque chose que, en fait, finalement, on n'avait pas tous de mots dessus, parce que je me dis, il y a plein de visions, de manières de voir les choses politiquement. Mais tu avais une espèce de cette force qu'avaient ces jours-là, ces jours qui sont venus, cette force, je pense que c'était le seul truc qu'on devait défendre, c'est notre quotidien, en fait, ensemble, de manière. J'arrive pas à définir ce truc-là, mais quand je vois des personnes, des personnes âgées qui viennent, enfin, des plus jeunes, des paysans qui ont aidé à aménager cette maison, à amener du matériel, à amener leur sens, ils disent tiens, je m'y connais en électricité, on va installer ça, moi je m'occupe de l'eau, sans rien demander en fait, sans se dire pourquoi, comment, sans se poser de questions. Et tu te dis c'est cette espèce de moment, cet instant là que t'as pas envie de perdre, tu te dis
Ce que je voulais caler aussi, c'était un truc, quelque chose autour du bien-vivre et de la convivialité aussi, quoi, qui fait partie de ce qu'on défend, peut-être un peu plus ras des pâquerettes, mais qui est hyper important, une esthétique aussi.
On s'est posé la question, du coup, mais alors comment on arrive, comment on veut arriver, comment on veut s'installer, et cette question de l'énergie à mettre dedans, et cette question de la précarité, nécessairement, en s'installant ici, c'est du squat, et du coup, comment on vit ce truc-là Et en fait, je me souviens d'un moment, on m'a dit bon, si on y va, on y va à fond, quoi. On lâche toutes les barrières, on y va, mon interprétation perso depuis quelques jours, c'est que tu bascules dans un truc de croyance un peu. De ouais, ça va le faire. On t'es plus dans une logique de rapport de force, de machin. Non, c'est t'y vas, tu te poses plus de questions. Tu fonces et tu dis ça va, il y aura pas d'aéroport et on va construire un truc. Sur du long terme, et il y a déjà ça mène, moi je trouve, une certaine excitation quand même, et une excitation sur la durée, enfin une espèce d'exaltation qui pourrait être quasiment quotidienne, en tout cas c'est le cas pour l'instant, c'est un peu fatigant des fois, mais c'est exaltant, et je crois que, enfin, je pense, il me semble, dans le groupe, comme il y a eu cette discussion là, j'ai l'impression de pouvoir dire que ouais, s'inscrire dans cette dynamique là qui existe déjà. C'est vachement important et ça fait partie de ce qui nous a motivé à arriver de cette manière-là, avec toute l'énergie qu'on avait sous le coude, quoi. Ouais, sans préciser de quoi il s'agit finalement, parce que ça serait trop long.
Et pourquoi vous parlez toujours de défendre ? Moi, c'est un terme auquel je suis très très peu habitué, même si dans d'autres sphères militantes. Mais défendre, pour moi, c'est déjà connoté, c'est la guerre, c'est-à-dire qu'on maintient une zone à défendre, une ZAD, avec tout ce qui est connoté derrière. Enfin, hier soir, c'est un peu ce qu'on a entendu à la réunion des habitants. Moi, je ne sais pas, en vous voyant, je connais à peine, là, j'arrive tout juste et je repars tout de suite. Et j'ai l'impression que c'est plutôt installer à promouvoir un art de vivre, cultiver quelque chose, mais pas défendre quelque chose, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a une nuance importante, et c'est peut-être là la transition que vous amorcez avec cette fameuse Noé verte dont on entend parler un peu partout. Parce que voilà, sans vous voir, on vous entend parler.
Moi, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit pour te répondre, c'est complémentarité. Ouais. C'est que les deux sont intimement liés. C'est on défend parce qu'on propose. C'est tout le jeu de l'occupation sur la ZAD. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça l'occupation, quoi. C'est que tu t'es dans la création. Enfin, je sais que mon père, du coup, qui est de la génération d'avant, c'est en 2012, c'est ce qui l'avait le plus frappé. C'est, je dis, moi, j'étais habitué à ce que l'État construise des trucs et les gens les détruisent. Et il dit, là, d'un coup, c'est les CRS qui détruisent ce que les gens ont construit. Et il dit, ça m'a bugué. Enfin, ça l'avait vachement remué. Et du coup, il y avait un enthousiasme. Juste, c'est ça de banal. Du coup, enfin.
Tu ne peux pas nier le fait que la zone, si, même si elle n'est peut-être pas à défendre, elle est en tout cas défendue, et que si elle n'était pas défendue, elle existerait tout simplement pas. Ouais. Si les gens n'avaient pas, conséquemment défendu la zone, j'aurais plus de zone. Quoi.
C'est vrai, mais il ne faut pas se mettre dans une position de.
Bah, mais l'opposition, mais l'autre position, ça pourrait être juste une zone offensive.
Bah, et en fait, on l'a pris en de manière à la fois bah, notre offensive, on la défend quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il y a on a bloqué ce chemin là parce que à la fois bah c'est bien, on vient ici, on s'installe. C'est, effectivement, il y a une question d'offensive parce que ils parlent d'expulser et je pense qu'ils sont le fait que au lendemain des annonces de menaces, bah, en fait là offensivement il y a un groupe qui s'installe et ça c'est très offensif. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on le défend en fait.
Et ben, ce qui s'est passé, alors, c'est on va dire l'avant-veille ou la veille, il y a eu un petit incident sur la ZAD, une histoire un peu drôle et fofolle d'un camion
et louche,
ouais, c'est pas surtout louche, d'un gros camion chargé de marchandises d'alcool et d'huile d'olive, enfin, ou d'huile,
de vin
de l'alcool et d'huile. Qui s'est engouffré sur la route des chicanes, qui est une route pas tellement praticable, même avec des petits véhicules. Enfin, voilà, donc on se demande comment un 33 tonnes est arrivé là. Et en 40. Fait, ce qui s'est passé, c'est que le camion a été immobilisé pendant la nuit, enfin, tout seul, hein, il s'est arrêté tout seul. Le chauffeur a appelé son patron en disant bah, « je sais pas ce qui se passe ». Je suis dans un endroit qui ressemble à Mad Max. Il a appelé son patron est venu le chercher. Et ils ont laissé le camion sur place. Quoi. Et dans la nuit, apparemment, le camion qui ressemblait un peu à un cadeau, bah, s'est fait ouvrir. Il y a eu quelques pertes de matière, enfin, on lui a piqué ses batteries et la cargaison a été pillée selon les journalistes. Du coup, bah, c'est aussi dans un contexte où il y a pas mal d'élus locaux en approche des élections qui se passent, qui commencent à remonter un peu au créneau depuis la fin des recours en juin, commence à reprendre du poids médiatique en disant bah non, cet aéroport doit se faire, ce serait bien de vider la ZAD, ce serait bien de. Voilà. Donc on était dans un contexte un petit peu tendu. Il y a le juge aussi, l'histoire du juge. Le juge des expropriations qui était arrivé la semaine d'avant, et le juge bah, s'est fait. N'a pas pu aller là où il voulait aller. Il a été bloqué par.
Il a dit qu'il viendrait, il a été annoncé qu'il ne pourrait pas entrer sur la ZAD et c'est ce qui s'est passé.
Voilà, mais il est quand même venu constater qu'il ne pouvait pas passer.
Vous m'avez raconté que quelqu'un avait tiré sur sa cravate.
Non. Je ne savais pas ça. Voilà. Voilà, et nous on intervient dans un contexte comme ça, un peu tendu.
La négociation avec les gendarmes qui étaient restés à quelques centaines de mètres à distance, sachant que du coup à l'entrée de l'impasse il y avait une centaine de personnes, on avait envoyé deux personnes deux médiateurs auprès des gendarmes, et notre demande était qu'on voulait le lancement d'une procédure d'expulsion liée au squat de la maison, et dans les 3 heures il y a un huissier qui est arrivé.
Ouais, parce que cette procédure nous protège, quoi.
Ouais. C'était un peu. On n'était pas très.
En gros,
on s'est rendu compte après dans les jours qui ont suivi que nos revendications manquaient un peu de clarté et de...
Voilà. En fait,
on découvrait en même temps qu'on le faisait. Donc.
Enfin, il y a eu un déboulement de flics dans tous les sens, il y a un hélicoptère qui tournait autour de la maison. Et du coup, ils ont demandé une discussion. Sur cette discussion, il y a Marconnet qui a annoncé, dit bon, bah maintenant, ok, ils comprenaient bien qu'il y avait des paysans et autres sur place, mais que.
Des enfants,
mais qu'ils interviendront, ils vont intervenir et que toute personne qui resterait une menace, ils auront des peines très dures. Donc il y a eu une montée de pression, on ne savait plus trop comment ça allait se passer. Et bizarrement, au bout de. Il y a l'hélicoptère, puisqu'il y a une folle histoire où un hélicoptère s'est posé sur la ZAD, apparemment, c'est la première fois que ça se passe comme ça. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, d'un coup, tout le monde disparaît, les flics rentrent. On commence à avoir bah, des messages, des appels à droite à gauche. Bah, les flics rentrent bien sur Nantes, on a bien une confirmation partout. Et là, on se dit, bah. On dit, enfin, un moment de calme, on comprend plus trop ce qui se passe, et voilà, assez rapidement, il y a deux huissiers qui débarquent, et on se demandait vraiment si c'était quoi le jeu, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à une arrivée des huissiers le samedi, on pensait que ça serait la semaine qui suit, le lundi, le mardi, on pensait vraiment tenir le lieu de risque d'expulsion, enfin. Et quand les huissiers sont arrivés, ils nous annoncent, bon voilà, ils font un constat, ils prennent en photo le nom de l'habitant sur la boîte aux lettres, et s'en vont. Voilà, c'est ce qu'on a décidé du coup le samedi soir. Rapidement on s'est dit on veut demander cette procédure, on la veut, et du coup on veut ce lancement, on veut la confirmation que la procédure est bien lancée, donc on a décidé de. Tant qu'on l'avait pas, on bloquait les routes en fait. Donc on a décidé de bloquer une partie des routes qui sont face à la maison. Et entre la route entre Grand Champ et Notre-Dame.
Départementale.
Donc on a prévu, on a essayé de faire ça. On a préparé plein de trucs, on a préparé des déviations déjà en amont pour les voisins, on a mis des courriers à tous les voisins en leur précisant que voilà, nous ce qu'on veut et pourquoi on bloque la route et qu'elle là elle est bloquée pour le moment. Et du coup cette route on l'a bloquée jusqu'au mardi matin. Parce qu'entre temps on a commencé à débloquer parce qu'on voyait que c'était toujours calme, il n'y avait aucune réaction. Ah, ici, il commençait à y avoir des réactions d'élus, un peu de sénateurs. Il y a eu le maire de Notre-Dame aussi qui a réagi en demandant que fait l'État, et qu'est-ce qu'ils foutent là, parce qu'ils sont en train de, là, ils sont en train de refaire une deuxième ZAD, ils sont en train de s'installer, bloquer les routes. Ils remettaient la question sur le terrain, sur des voitures qui ont été brûlées. Ils montraient du doigt tout ce qui se passait. Puis derrière, l'État ne réagissait pas, il laissait cette maison s'occuper.
Ça a aussi été élevé parce que, entre autres, ça pesait aussi dans la balance. C'est que autour, il y avait des paysans qui avaient besoin d'accéder ouais. à leur terrain. Donc, en négociation aussi avec eux, tout en restant prudent, on a décidé d'ouvrir certains passages pour leur laisser accès à la culture. Quoi.
Mais parce qu'en dehors de ça, les usagers de la route n'étaient pas particulièrement gênés par la déviation. Il n'y avait pas d'hostilité de comment ça s'est passé avec les
usagers. Ça dépend qui. On a eu quelques retours négatifs. Forcément. Et forcément, ça s'est fait écho très vite dans la presse. Mais un truc on a eu aussi énormément de retours positifs de gens qui étaient contents de je ne vais pas dire qu'ils étaient contents de faire un détour de 3 km pour aller au boulot, mais on a eu pas mal de messages de soutien de gens qui souriaient dans leur voiture, qui nous montraient des pouces comme ça. C'est bien comme sur Facebook. Là.
Peut-être qu'il y avait juste un pouce.
On a eu plus souvent des pouces que des index. Quoi.
Majeur. Il y a un truc qui a été fait aussi chouette parce que c'est ce qui a été fait aussi, c'était d'aller voir tous les voisins, les gens les prévenir avant, leur dire il y a des. Le jour, le samedi, il y a des copains qui sont allés, ils ont été voir tous les voisins, leur précisant nous ce qu'on faisait. Et j'imagine qu'il y a eu des retours qui ont dit au début ils étaient un peu frileux sur l'idée, puis en discutant avec eux ils se sont rendus compte que c'était pas finalement intéressant ce qui se passait, pour le pourquoi, le comment, pour qu'on faisait ça. Et du coup, ça a déjà, en amont, ça a déjà un peu calmé le jeu, ça a créé déjà une relation avec l'entourage. Et du coup, forcément, comme la route était bloquée, les voitures s'approchaient, et du coup, certains commençaient à discuter, venaient, il y a eu des petites discussions qui se faisaient sur la barricade avec les voitures, c'était plutôt.
Et puis, on a quand même tout mis en place pour que les déviations soient. Enfin, on a mis des déviations en place pour que les gens soient le moins ennuyés. Possible, et du coup on a aussi été dans le bourg de Notre-Dame le lundi matin pour dire ne passez pas par là, la route est bloquée, vous pouvez passer par là, enfin on a vraiment fait en sorte que voilà, que ça se passe au mieux pour les gens
Et puis les voisins étaient tellement mécontents qu'ils nous amènent du matériel et qu'ils viennent jouer aux cartes avec nous.
Ouais.
C'est mieux jouer à la cronche. Voilà, donc ça c'est pour te montrer l'ambiance tendue qu'il y a ici. Voilà.
Il y a une petite anecdote, j'ai vraiment aimé ce retour où c'est toi qui a été voir une des voisines au début qui était un peu frileuse et qui racontait qu'au début, et finalement ça s'est carrément débloqué en disant mais j'ai un four à pain et. C'est chouette, du coup j'ai un four à pain, on va pouvoir le faire revivre. j'ai un pressoir, on va pouvoir le ressortir. Puis la fille qui dit, oh, mais moi j'aurais voir des chèvres, est-ce que vous aurez des chèvres? Puis on lui dit, bah, si tu veux une chèvre, tu l'amènes, c'est bien pour ton apouse. Ça nous arrange bien aussi. Mais du coup, t'es espèce d'ouvrir un truc, bah, une espèce de, bah, tu vois, par le terrain quotidien qui pète et dit, bah, tiens, regarde, on peut refaire revivre des choses de village, de quartier, de coin.
Vraiment, c'est pas mal de choses.
Et enfin, bon, c'est des petits trucs qui sont venus dans ces moments-là, quand la route était bloquée, et en fait, ça nous soulager en fait aussi ça derrière toutes ces fausses pressions qu'on avait qu'ils emmerdent le voisinage, ils emmerdent tout ça alors que c'était forcément ça emmerdait des gens, forcément il y en a qui gueulaient, ouais, vive l'aéroport, forcément eux on les emmerdait, c'est sûr.
Mais on les emmerde.
Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que ça donne, c'est que ce qui fait aussi que tout ça c'est possible, c'est cette espèce de situation géographique à la lisière de la ZAD, quoi. C'est un truc qui c'était au cœur du truc, c'est pas possible. Et là, c'est le fait que ça soit une sorte de ponton vers l'extérieur de la ZAD,
c'est vrai que cette situation-là, elle brouille un peu les cartes, parce qu'il y a des gens qui étaient surpris. Ah oui, mais ça vient jusqu'ici, la ZAD, en fait. Ah ouais, le maire de Notre-Dame-des-Landes est le premier à se planter en disant ils sont en train de créer une deuxième ZAD. C'est la même, c'est la zone d'aménagement différé, elle va jusqu'à la route qui est en face de là, quoi. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a une espèce de... Ça brouille un peu les pistes comme ça, et finalement, ouais, ça nous a plutôt servi, j'ai l'impression. Donc c'est ouais, je trouve que ça met bien en évidence ce décalage entre ce qui clairement se diffuse en termes médiatiques et la réalité ici où les voisins qui viennent, ouais, il y a aucune tension, quoi. Enfin,
après on a eu comme des coups de pression entre le moment où on a descendu les barricades, on a ouvert les barricades et jusqu'à hier, quoi, en fait il y a eu des moments, des hauts et des bas très forts, parce qu'il y a eu des réactions assez fortes. Parce que deux jours après qu'on a ouvert la route, il y a Valls qui fait une grande annonce, enfin il relance pareil, parce qu'en fait déjà ça fait déjà la première chose, ça fait déjà réagir Hollande qui est venu à Saint-Nazaire, qui était forcément obligé, c'était forcément une conséquence, parce que ça parlait de la ZAD et lui il arrive en plein moment bouillonnant médiatiquement, ça bouillonnait un peu sur la ZAD, donc forcément il est obligé de répondre sur quelle était sa position sur les travaux, et lui directement il répond ça va se faire un jour ou l'autre, tu vois, et on n'est pas très clair, et là et lui il fout le bordel dans son gouvernement en disant ça, et puis là ça commence à rugir dans tous les sens. Et il savait plus, enfin ouais, on voyait bien un peu la déstabilisation de ça, et dès le lendemain, il y a Valls qui, forcément, c'est un personnage complètement foufou, qui s'agitait énormément en annonçant que l'aéroport va se faire, et forcément, il maintient ce discours-là qui va pas dans son contrat déjà pour assurer pas mal de choses, je pense, et il annonce en parlant de cette maison qu'ils ont fait un appel à référer d'heure à heure qui a été lancé, et là, nous on l'apprend, on ne savait pas encore, si on n'avait pas de sur ce papier, on l'apprend. Par Valls au Sénat. On est là, ah ouais, tiens, on va voir. La procédure est lancée, les gars. Valls vient de le dire. Et
il annonce l'expulsion immédiate.
Immédiate.
Il dit, une procédure d'urgence d'expulsion est lancée, et dès le délibéré, l'expulsion sera menée, quoi.
Et donc là, on se rend compte de l'urgence, on s'est dit, ok, c'est vraiment un petit coup de pression, on s'est dit, c'est...
Grosse ascension sociale, d'un coup.
Qu'est-ce que ça vaut, ces paroles, un peu...
Pour une fois que le Premier ministre nous écoute.
J'ai encore rien compris.
Et en fait, on a, le lendemain, toujours rien, pas de nouvelles, et on a le document le vendredi soir... la semaine dernière, il y a deux semaines.
Ce que vous entendez, c'est que Valls a menti, donc.
Ouais. Il a menti, ou il s'est fait tacler, quoi.
sur le caractère d'urgence de la procédure, ce qui est clairement annoncé, lui, au Sénat, la procédure d'urgence, elle a été cassée hier au tribunal.
Voilà.
Donc, il n'a pas complètement menti, vu qu'il y a quand même...
Il s'est trompé, en tout cas.
Ouais, voilà, il s'est trompé sur...
Il a essayé de donner le rendu de la justice, qui n'est pas possible, normalement.
Normalement. Le délibéré du procès d'hier 29 octobre 2015. Le délibéré du procès est au 3 décembre. Donc de toute façon, nous, ça nous met dans une position que on ne s'était pas dit clairement, mais qu'on pouvait attendre en tout cas, et qu'on pouvait souhaiter finalement. Ça nous met comme dans la même position que tous les autres lieux de la ZAD qui sont soit déjà en procédure d'expulsion, donc ils vont être dans les semaines qui viennent expulsables tout comme nous, et d'autres lieux qui sont déjà depuis longtemps. Et donc en gros, ça nous met dans la même position que tout le monde, ce qui est de manière générale une situation intéressante là sur la ZAD, que le fait que là, en janvier, là où ils disent qu'ils vont intervenir et vider la ZAD, tout le monde sera dans le même bateau, quoi. Il n'y aura plus quelqu'un qui pourra dire « Oui, mais moi, j'ai encore un fond de légalité dans mon occupation, je vais jouer là-dessus et tout, ça c'est terminé. »
Il n'y a pas besoin de vous virer, vous, plus que d'autres.
Plus qu'un autre, voilà.
Et la ZAD va être de toute manière intégralement illégale.
Voilà. Peu, quoi. Et donc c'est ce qu'on pouvait...
Légalement illégal.
Bah, on va pouvoir commencer à continuer ce qu'on a déjà fait avec beaucoup moins de pression.
Et précisément,
ouais, je sens bien que c'était ça la question.
Bah là, c'est peut-être sûrement de commencer. Est-ce qu'il a été commencé? Il y a déjà des plans. Là, l'idée, c'est de travailler. Je pense que c'est de mettre en forme vite fait, très rapidement, l'outil conserverie. D'avoir le matériel, de mettre en place. La maison, c'est d'aménager. En fait, on a pensé. On a pensé sur les plans, on a décidé de diviser la maison en deux, une partie pour la vie collective, parce qu'en fait on est 12 personnes autour du projet, enfin pour le moment. Et la deuxième partie, voilà, ce serait toute la conserverie, stockage, transformation et autres.
Ce qu'on a commencé à faire dans l'urgence, nous, c'est qu'on a commencé à faire nos premières conserves, là, de crème de châtaigne et confit d'oignon. Mais en gros, là, on le fait dans notre cuisine, quoi, comme n'importe qui le ferait dans sa cuisine. Et nous, ce qu'on aimerait faire à terme, c'est de monter une conserverie opérationnelle et avec du vrai matériel, un vrai laboratoire, des vrais outils qui soient appropriables pour nous et pour les productions qu'on va commencer à mener sur notre terrain. Donc on va commencer à lancer un potager et un projet plus ambitieux de maraîchage, et que cet outil soit aussi un outil disponible et appropriable, je vais pas dire par n'importe qui, mais par les gens qui se sentent l'envie et le besoin de venir faire ici leurs propres conserves plutôt que de les faire dans leur arrière-cuisine.
Il y a le lien entre autres, mais peut-être pour faire un peu exemple, il y a dans le lien qu'il y a avec le tissu associatif et de collectif à Nantes dont on parlait tout à l'heure, il y a par exemple potentiellement dans le lien avec les épiceries autogérées, le fait de pouvoir dire concrètement, voilà, il y a un nouvel outil hors l'agglomération qui est mis à disposition des gens de... Alors, c'est ouvert après, mais qui est mis à disposition des gens que ça intéresse, et ça s'adresse notamment aux gens de ces réseaux-là qui sont déjà en train de se questionner sur leur alimentation et sur comment ils la gèrent.
Là, c'est aussi une manière de vraiment raccourcir ce circuit.
Ouais, puis il y avait cette question, moi je vois comme, on voit comme un outil en plus, parce que on est vachement, cette épicerie, elle nous permet, parce que c'est déjà ce qui nous a réunis en fait. Et par cette épicerie, en fait, il n'y a pas aussi que des produits qu'on cherchait. On a aussi des produits qu'on faisait nous-mêmes. On disait que si on pouvait produire nous-mêmes, il y a plein de choses qui sont nées dans cette épicerie. Il y a par exemple, dès le début, il y a un échange qui s'est fait avec un paludier. Lui, il voulait. Il avait besoin d'un coup de main pour arracher sa salicorne, et on lui a dit on te fait un coup de main, et puis on trouve un moyen d'échange. Je lui ai dit moi je vous file du sel, fleur de sel et gros sel, la quantité pour l'année que vous voulez, quoi. Et lui, c'est un sérieux coup de main qu'on lui donnait, parce qu'on arrivait, on lui arrachait la salicorne, et c'était cool parce qu'on partait avec du sel et de la salicorne. Du coup, la salicorne, on les a mis en bocaux, et du coup on les a mis dans les gaz à distribuer, puis il y a eu ça. Donc les produits, on les met à prix libre pour éventuellement financer des trucs. Il y a eu des coups de main avec des paysans dans le sud de Nantes, où on allait filer des coups de main, parce que lui, c'est un paysan qui travaille seul et qui a grave du taf, et puis il est pris dans un schéma, il est bio, mais puis il a une espèce de processus, il faut qu'il répaye ses charges et il faut qu'il produise comme un malade, et donc il y a beaucoup de taf. Et du coup, là, tous les lundis matins régulièrement les lundis matins. On file des coups de main à ce paysan, puis on échange pareil, il nous file des légumes et on se règle ses légumes, des fois en quantité. Alors on fait soit on faisait des soupes pendant des manifs ou dont on occupait des lieux dans la rue et puis on faisait des espèces de tambouilles, et ou bien on se dit mais avec ces légumes on pourrait les transformer, enfin on a surplus de légumes qui sont en train de pourrir et on a ces épiceries, ben on y va, on les fait. Il y a ça, il y a du coup le jus de pomme, il y a des copains qui ont des vergers, ben on se dit bah tiens on va les cueillir des pommes, on les choper un pressoir, enfin du coup on organise toute notre vie en fait totale, et il y a la bouffe, et après est venu d'autres trucs, enfin on se rend compte que il y a pas que la bouffe, on a trop besoin d'autres choses à côté, enfin le quotidien quoi, enfin de.
Et juste, parce que là du coup on parle beaucoup de nos épiceries autogérées sur Nantes et dans les environnements, nous on veut pas faire un pont exclusif entre ici et Nantes, même si c'est une porte d'entrée, cet outil et nos productions, elles serviront aussi donc aux habitants des alentours comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi forcément à la ZAD et au mouvement qui en découle quoi.
Et après justement dans le lien avec la ZAD, il y a déjà un lieu de transformation sur la ZAD, ouais. Au Limingou, qui a été retapé cet été, tout propre, tout neuf, fonctionnel. Et du coup le fait que ce soit un deuxième projet de conserverie sur la ZAD, ça pose de manière encore plus clair et sensible la question de bon bah oui la ZAD s'étend petit à petit, le mouvement, même si c'est pas évident parce que c'est du taf et il faut du monde, grappiller les terres à Vinci dans l'usage, c'est-à-dire avoir le mouvement, qu'il ait ses propres cultures sur les terres de la ZAD et étendre ça petit à petit, et du coup ça pose toute la question logistique derrière de bon bah oui on produit des céréales, des légumes, des patates, des oignons, et il y a déjà des réponses sur qu'est-ce qu'on en fait après. Maintenant, il y a une minoterie sur la ZAD, il y a les boulangeries derrière, il y a déjà cette conserverie où ils ont fait des centaines de litres de coulis de tomates cet été. Mais étant donné l'ampleur de la tâche en termes d'agriculture et toute la logistique qui va avec sur la ZAD, c'est sûr que c'est pas inintéressant qu'il y ait une autre conserverie, et il en faudrait même probablement beaucoup plus. Autour, et donc c'est aussi une réponse de plus par rapport à ces problématiques là un peu plus, ces problématiques là sur la zone.
Quand on dit la ZAD s'étend, c'est pas que géographiquement quoi.
Ouais. Et du coup il y a un projet agricole qu'on veut mener sur ces terres là pour l'instant on parle surtout de maraîchage, on verra ensuite.
Petit verger. Il y a pas mal d'idées. Petits fruits, vergers, médicinales, aromatiques. Un truc assez complet, ouais. Mais je suis un peu mal à l'aise parce que c'est un projet... c'est un projet à côté du projet collectif qui concerne... pas que moi, qui concerne pas mal de personnes qui sont intéressées. Par l'automédication en général, ou par les plantes médicinales, ou par la distillation d'huile essentielle. Du coup... Voilà, c'est que à l'état de projet en ce moment, mais il y a plusieurs personnes qui se forment là-dessus, donc qui se forment soit d'elles-mêmes par des lectures, soit par des rencontres avec des gens. Il y a d'autres personnes qui font ça sur la ZAD ou qui ont envie de faire ça. Et avec du coup l'idée d'avoir des cultures, qui soient des cultures en plantes médicinales, mais aussi de voir que ici on a la chance d'avoir un beau réseau de chemins, de haies, des parcelles agricoles qui sont plus ou moins à l'abandon, donc des grosses possibilités de cueillette aussi. Donc il y a cette partie-là qui est juste le produit, la transformation, le séchage, en macérat glycériné, en huile essentielle, on en parle aussi. Puis il y a d'autres projets en parallèle dont on entend parler, avec qui on pourrait s'associer éventuellement. Et puis aussi la recherche sur... comment on soigne, est-ce que c'est forcément individuel, est-ce qu'il y a des problèmes qui se retrouvent un petit peu régulièrement et que beaucoup de gens ont, et que partager une expérience là-dessus sans passer par un rapport de soignant-soigné un peu individuel.
Consultatif.
Voilà, plein de pistes comme ça, et l'idée de vraiment être sur de l'expérimentation et de la recherche ici et profiter de la richesse de cette zone et de sa réactivité pour pouvoir un peu fouiller là-dedans, se demander comment par exemple on peut se réapproprier la médecine, parce qu'en fait on est en Occident quand même assez pauvre en médecine En médecine traditionnelle, ça a été tué quasiment au milieu du Moyen-Âge, donc on a très peu de culture là-dessus. Est-ce que ça a, est-ce que ça a du sens de, du coup, reprendre les cultures traditionnelles de médecine plutôt orientales qui sont très riches? Comment on se les réapproprie avec les plantes d'ici? Enfin, c'est plein de questions très très intéressantes et qu'on peut creuser avec les gens que ça intéresse collectivement.